Gaël Luguiot-Castel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le metteur en scène de la Caravane Compagnie qui présente ce soir à 20h et demain à 16h30 à la Faculté de Sciences Économiques la pièce de théâtre Terreur. Terreur est présentée comme une pièce de théâtre immersive. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, on entend souvent parler de théâtre participatif et on met dedans plein de choses d'ailleurs qui vont... Simplement de demander une action à un spectateur jusqu'à carrément impliquer les spectateurs très fortement par des actions dans le, dans le spectacle. Moi, je préfère la notion de théâtre immersif au sens où j'aime pas du tout les spectacles qui forcent les spectateurs à entrer en action. Par contre, j'aime que... le spectacle propose un dispositif dans lequel les spectateurs sont intégrés au sein même de la fiction. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une pièce de procès. Peut-être j'anticipe un peu sur votre question, mais...
Allez-y.
Il s'agit d'une pièce de procès où les spectateurs sont les jurés du procès. Donc, ils vont avoir à agir au sens où ils vont devoir voter à la fin pour la condamnation ou l'acquittement de l'accusé. Mais par là même, ils sont aussi immergés dans tout ce rituel et tout ce dispositif du rituel judiciaire qu'est le procès. Et j'aime ça, que cette bizarrerie qu'est le théâtre, c'est-à-dire des gens qui racontent une histoire ou qui jouent une histoire... Et des gens en face qui acceptent de faire semblant d'y croire pour un temps, j'aime que ce soit pas si nettement divisé que souvent au théâtre où voilà, les acteurs font ce qu'ils ont à faire sur scène et les spectateurs écoutent et regardent, mais plutôt qu'on participe au jeu tous ensemble, chacun à notre manière.
Et d'où vous est venue cette idée donc de représenter cette pièce de théâtre, ce procès-là ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans l'œuvre de Ferdinand von Schirach, donc l'auteur de cette pièce ?
Alors, comme je le disais, nous, dans la compagnie, on travaille beaucoup sur cette notion de théâtre immersif. Et en fait, il y a assez peu de textes de théâtre préexistants qui proposent dans leur dramaturgie même une place aux spectateurs et aux spectatrices. Et c'est le cas de ce texte-là. Donc moi, je l'ai lu d'abord pour ça, parce que j'étais curieux de ça. Et en fait, l'histoire, ce que ça raconte, ce que ça soulève comme questionnement, comme interrogation, ce que ça suscite comme parcours intellectuel et philosophique, rien qu'en lecture, ça m'a complètement attrapé, captivé. Et j'ai eu envie d'aller plus loin que la simple lecture de moi tout seul avec cette pièce chez moi. J'ai eu envie de la mettre en scène pour que ça puisse se partager avec un plus grand nombre de personnes.
D'habitude, quand on va voir une pièce de théâtre, la trame est déjà rédigée, comme la fin. Il n'y aura pas de révolution en cours dans la pièce. Vous savez déjà comment ça va se finir. Or là, on ne sait pas donc, puisque c'est un procès et les spectateurs vont choisir si le jugé sera acquitté ou donc condamné. Qu'est-ce que ça change quand le spectateur va voir la pièce ? Qu'est-ce que ça change dans son ressenti profond ?
Eh bien, ce que ça change, je pense, mais même à la simple lecture de la pièce, c'est qu'on a une attention beaucoup plus active à ce qui est en train de se dire, parce que comme on sait qu'on va devoir agir à la fin, par le biais de ce vote, on s'implique presque plus dans son écoute, j'ai l'impression, puisqu'on sait qu'on va devoir poser un choix. Et évidemment, tout le jeu de la pièce, c'est que le poser ce choix n'a rien d'évident, puisqu'on est face à un dilemme moral, un cas de conscience.
On en a parlé, donc le spectateur est actif durant la représentation, il n'est pas passif comme la plupart du temps. Comment est-ce qu'on adapte le dispositif scénique pour ça ? Est-ce que ça se fait tout seul, naturellement, ou est-ce qu'il y a une adaptation ?
Eh bien, ça a été une grosse question, justement. Moi, je suis parti de ce qui existe vraiment dans les tribunaux en cour d'assises, puisque, pour rappel, seuls les procès d'assises et les procès parfois en appel, mais enfin, qui sont d'abord passés par les assises, ont des jurés, comportent un jury populaire. Et je me suis beaucoup posé la question, dans le dispositif scénique, de comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que les spectateurs se sentent appartenir à ce groupe des jurés. Dans un vrai tribunal, en France, les jurés siègent aux côtés des juges professionnels, des magistrats professionnels. Là, évidemment, ce n'était pas possible dans la scénographie qu'on construise un grand bureau pour 250 personnes qui auraient siégé au-dessus de l'accusé, de la défense et de l'accusation. Mais on s'est servi finalement des codes de la salle de théâtre qui dispose en soi d'une frontière symbolique entre la scène et la salle pour recréer ça. Et en quelque sorte, on a inversé ce qui existe vraiment dans une salle de tribunal, c'est-à-dire que dans une salle de tribunal, vous avez trois parties. Vous avez ce qu'on appelle le siège, où vont siéger les juges et les jurés. Vous avez une espèce de parquet infranchissable que personne ne doit traverser, sauf quand on est appelé au bureau du président. Ensuite, vous avez l'espace où il y a la barre, le bureau de l'accusation, le bureau de la défense. Et tout derrière, vous avez le public, puisque les procès en assises sont publics. Là, on a inversé le rapport, c'est-à-dire que sur le plateau se situe le parquet, donc la barre, l'accusation et la défense. Ils font face au gradin, à l'audience, et la présidente est tout en haut, le bureau de la présidente est tout en haut du gradin. C'est-à-dire que les spectateurs se retrouvent pris entre le bureau de la présidente et la barre, en quelque sorte, et constituent comme ça un ensemble, une masse. Voilà.
L'acte qui va donc être jugé ce soir, c'est celui de Lars Korr. Pour le rappeler, donc, il a abattu un avion de ligne rempli qui allait se crasher sur un stade, parce qu'un terroriste avait pris son contrôle. Il a donc sauvé 170 000 personnes, mais pour en tuer 164. Dit comme ça, ça a l'air d'être un acte profondément rationnel, mais c'est aussi profondément insensible et froid. Comment donc on met en scène cela? Et est-ce qu'on est dans une sorte de débat entre le cœur et la raison?
Oui, on pourrait le dire comme ça. On pourrait le dire aussi avec des termes plus philosophiques. On est dans un débat entre deux courants philosophiques en philosophie éthique qui sont l'utilitarisme ou le conséquentialisme, c'est des subdivisions ensuite, et le déontologisme. Et effectivement, un procès, c'est toujours le jeu d'un débat contradictoire entre l'accusation et la défense. Après, il y a les parties civiles, c'est encore autre chose. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'avocat de la partie civile dans la pièce. Et on pourrait dire sommairement que la procureure, qui est à charge d'accusation, défend pleinement une ligne déontologique, déontologiste, et l'avocat de la défense, une ligne utilitariste. Et soi-même, en tant que spectateur ou lecteur, effectivement, on est complètement pris dans ce dilemme, c'est-à-dire que, comme vous le résumez très bien, d'ailleurs quand je racontais la pièce avant de commencer à la travailler, les trois quarts des gens me disaient « évidemment, il a bien fait, enfin, ça ne fait pas l'ombre d'un doute ». Sauf que le jeu du débat contradictoire introduit tout un tas de zones de doute à l'intérieur de ça, et notamment la posture de la procureure qui n'est pas évidente à défendre, mais qui défend... la loi constitutionnelle et le respect de la loi constitutionnelle, au motif qu'on se donne des règles par un processus démocratique. Alors de tout ça, on peut discuter évidemment, hein, mais qu'en tout cas, la loi et la constitution sont l'émanation d'un processus démocratique et qu'on ne peut pas franchir ces règles parce qu'elles sont le garant d'une société cohérente. Alors, je ne donne pas un avis personnel là-dessus, mais je tiens à le dire, mais en tout cas, la question est je trouve, passionnante.
On a parlé un peu de principes de philosophie, de droit, de ce genre de choses, qui sont des choses assez parfois complexes. Comment est-ce qu'on réussit à les faire rentrer dans une pièce de théâtre sans les dénaturer, ni non plus en faire quelque chose... d'un peu indigeste, peut-être.
Ben alors, je ne peux pas parler à la place de l'auteur, puisque c'est quand même lui qui a fait le gros du travail là-dedans. Voilà. Mais peut-être je peux dire, moi, ce que j'en pense sur la façon dont l'auteur s'est saisi de ça. Je trouve que... Alors, l'auteur, ce n'est pas pour rien qu'il a écrit un procès. Lui, il est avocat pénaliste, à la base. C'est un peu une star du barreau en Allemagne. Et maintenant, il n'exerce plus, il n'est que auteur. Mais c'est son terreau, c'est la langue qu'il comprend, qu'il connaît, qu'il maîtrise. Et en même temps, là où je trouve ça passionnant, qu'il ait, malgré ce préambule, choisi que ça se passe dans un procès, c'est précisément par ce jeu du débat contradictoire. En travaillant sur la pièce, en travaillant aussi sur les notions philosophiques et sur... parce que moi, j'y connaissais rien, je ne suis pas un philosophe, je ne connaissais rien au monde de la justice non plus. Je crois que ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'un procès vise à reconstituer une histoire et à juger des faits à partir du récit qu'on en fait. À partir des preuves, bien sûr, mais finalement, en dernier recours, c'est sur le récit qu'on va se fonder. Alors ça, moi, étant une personne de théâtre, ça me passionne, parce que je trouve qu'il y a vraiment des parallèles. Et le jeu, encore une fois, du débat contradictoire, finalement, empêche le manichéisme, parce que chaque partie va, par tout le pouvoir de la rhétorique, que sont capables de développer et la procureure et l'avocat de la défense, défendre des positions antagonistes. Et ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on est sans cesse baladés. C'est-à-dire qu'on écoute la procureure, on se dit « bah oui, quand même, elle a raison ». Et puis après, on écoute l'avocat, il se dit « bah oui, il n'y a pas tout à fait tort non plus ». Ça crée une espèce de zone de trouble et ça crée un rapport à la vérité qui est passionnant parce que chacun finalement énonce une vérité selon ses termes et avec ses propres outils. Mais quand on assiste à ces deux discours qui s'entremêlent et qui sont contradictoires en permanence, on ne peut que poser le constat de se dire ben, puisqu'on peut défendre deux positions aussi opposées, parfois même avec des mêmes fondements argumentatifs, ben, ça ne peut pas être la vérité d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a forcément un entre-deux et c'est à nous de faire le job ensuite, quoi, de se dire « Ok, comment est-ce que je me positionne par rapport à ça ?»
Aujourd'hui, on s'intéresse notamment à la sensibilité. Votre pièce aussi s'y intéresse et questionne entre autres la place du sentiment dans nos décisions morales à nous. Je m'adresse à vous maintenant. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Est-ce qu'il faut défendre la place de la sensibilité en société?
Oh là là. C'est un grand oui. Je dirais que c'est un grand oui. Moi, il n'y a rien qui me passionne tant que la faille, que la sensibilité dans la vie et au théâtre. Je dirais, ce que je trouve le plus beau sur un plateau de théâtre, c'est toujours quand il y a une zone de faille, une zone d'hésitation, une zone de trouble. Je dirais que ce qui m'a motivé aussi dans le fait de monter cette pièce, c'est que je trouve qu'on vit dans une époque où on nous assène des vérités en permanence, avec beaucoup de force. Et moi, la force, ça me gave. Et j'ajouterais, si je peux me permettre, que j'ai en parallèle, enfin, il y a quelques mois, j'ai créé un autre spectacle qui est un seul en scène sur la virilité. Donc j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de la virilité. Et la sensibilité est une espèce de tare au regard de la norme virile. Et je crois vraiment que politiquement, on ne pourra pas aller vers du mieux tant qu'on ne questionnera pas ce modèle de la virilité qui est notre modèle social patriarcal aujourd'hui. Et ça passe par, effectivement, une réflexion sur la sensibilité.
Et bah, Gaël Le Guillou-Castel, merci beaucoup.
Merci à vous.